Si vous voulez vous tourner avec moi dans le livre d'Esdras, Esdras chapitre 4, prions. Seigneur, encore une fois, nous voulons te remercier pour ta parole qui est la vérité, ta parole que tu nous as donnée pour nous instruire et nous préparer à toute œuvre bonne, mais aussi pour nous reprendre, pour nous corriger, pour nous instruire, Seigneur, et voilà, nous voulons, même dans ce passage, ces passages peu connus, Seigneur, voir ton esprit qui nous enseigne, qui nous reprend, qui nous trace la voie. Sois glorifié, Seigneur, pour la puissance de ta parole qui ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet, Seigneur. Elle est comme la nourriture du ciel. Même si parfois nous ne sentons pas transformés immédiatement, Seigneur, elle nourrit notre âme, elle nourrit notre esprit. De même que nous ne nous rappelons pas ce que nous avons mangé il y a une semaine, Seigneur, notre corps, lui, en a profité et est plus fort et plus capable de fonctionner. Là aussi, Seigneur, ta parole, elle nous touche, elle nous transforme. Sois à l'œuvre encore ce matin, dans le nom de Jésus, nous le demandons. Amen. Amen. Vous vous souvenez, on a entamé l'étude de ce livre d'Esdras qui décrit le retour des Juifs de Jérusalem qui avaient été exilés à Babylone. Et nous avons vu que il y avait des analogies, des instructions à retirer de cette étude de l'histoire du peuple juif. Parce que comme il est possible pour beaucoup d'entre nous, nous pouvons nous éloigner de Dieu, nous pouvons nous égarer dans notre vie. Nous pouvons aller dans le péché, nous pouvons être découragé, l'ennemi vient nous décourager aussi et nous nous laissons aller. Et des fois le Seigneur doit nous exiler, nous faire passer par des moments d'épreuve pour accomplir sa discipline, pas dans le but de punir pour punir, mais dans le but de punir pour nous faire retourner à lui. Et c'est ce qu'il a dû faire avec le peuple de Jérusalem. Les tribus de Juda et Benjamin, il les a exilés. En 586, il y a eu la dernière vague d'exil qui avait commencé plus tôt, en 606 avant Jésus-Christ, avec la promesse faite par l'intermédiaire des prophètes que cette punition ne durerait que 70 ans. Que 70 ans, ça fait un bail, surtout quand on est jeune. C'est comme toute une vie en exil. Et cette durée de 70 ans, on avait vu aussi qu'elle n'était pas prise au hasard. Elle correspondait au fait qu'ils n'avaient pas laissé de sabbat, ils n'avaient pas laissé la terre se reposer une année tous les 7 ans, comme ils auraient dû le faire. Et ça faisait 70 fois 7. C'était le nombre d'années pendant laquelle ils n'avaient pas laissé la terre se reposer comme il l'aurait dû d'après la loi de Dieu dans le Lévitique, le repos de la terre qui était peut-être vu par eux comme une perte de ressources, alors que nous savons, là, les agriculteurs savent qu'en fait si on laisse la terre se reposer, elle va produire davantage. C'est un peu à l'image du sabbat que le Seigneur nous demande de respecter. Un jour de congé par semaine, un jour de repos plutôt par semaine, un jour de repos où on pense à lui pour être plus fort le reste de la semaine. Et le fait que vous soyez ici, ça veut dire que vous comprenez l'importance de vous ressourcer spirituellement, parce que nous ne sommes pas un casier à compartiment où il y a le tiroir de spirituel, le tiroir des choses pratiques, le tiroir de la semaine, le tiroir du dimanche. Nous sommes un. ou une. Et nous avons besoin d'avoir une harmonie dans notre vie, au niveau physique, au niveau moral et au niveau spirituel. Et donc, ce peuple, il était en exil. On a vu que Dieu avait appelé un roi, il l'avait même nommé 200 ans avant qu'il ne soit né, et il avait appelé ce roi Cyrus à autoriser le peuple à revenir pour bâtir le temple à Jérusalem. Et nous avons dit que lorsque nous nous éloignons de Dieu, la première chose à faire, c'était de reconstruire un autel. Alors pas de construire, d'empiler des pierres ou de tailler du marbre pour faire un bel autel religieux. Non, un autel, c'est un endroit où on rencontre Dieu. Ça veut dire qu'il faut revenir à un temps chaque jour où on passe du temps avec Dieu, dans sa parole, dans la prière, en pensant à lui, en méditant sa parole et en communion avec lui. Et c'est très important pour retrouver une relation avec Dieu, une intimité. Ils avaient commencé à faire cela. Il y avait sur les millions, 2 ou 3 millions de personnes qui habitaient en exil à Babylone. Une fois que le roi Cyrus leur avait donné l'autorisation, leur avait demandé de retourner à Jérusalem, bâtir le temple, seulement 50 000 étaient partis. C'est beaucoup et c'est peu, vu la proportion, mais ceux qui restaient pouvaient aider ceux qui étaient partis en participant de leurs deniers et en les gardant dans la prière. Et ils avaient reconstruit cet autel, ils avaient reconstruit les fondations du temple, ils avaient commencé à sacrifier et ils avaient fait une grande fête. Avant même que le temple soit terminé, ils étaient heureux de savoir qu'ils étaient en bonne voie pour retrouver la possibilité d'avoir une relation véritable avec le Dieu de l'univers. Et cette fête, nous l'avons vue, c'était la fin du chapitre 3. Il louait Dieu, il disait « Il est bon, sa bienveillance pour Israël durera toujours. » Et tout le peuple se réjouissait en faisant beaucoup de bruit. Parmi les gens qui étaient là, il y en avait qui avaient connu l'ancien temple de Salomon à Jérusalem, qui avait été détruit en 586. Et eux étaient déprimés parce qu'ils disaient « Mais le temple qu'ils sont en train de reconstruire, ça va être tout petit, c'est moins bien. » Ils regardaient dans le passé au lieu de se réjouir du présent, confiant dans l'avenir. Et nous avons dit aussi que ce qui compte, c'est de vivre notre foi au présent, de ne pas regarder, peut-être que nous avons eu une conversion fantastique, lancé dans la foi chrétienne avec plein d'énergie, de zèle, nous avons vu des choses arriver, puis les choses se sont calmées, nous nous sommes un peu laissés distraire par les soucis de la vie. Et si nous faisons ça, nous ne reconstruisons pas l'autel. Nous soucions du passé, alors que le Seigneur nous invite à vivre aujourd'hui. On n'a pas vraiment le choix, mais on pense des fois qu'on peut revenir en arrière et on vit dans le passé. Ou alors on se fait plein de soucis pour le futur, mais tout ce que le Seigneur nous donne, c'est le moment présent. Il veut que nous nous concentrions sur ce moment présent. Lorsque vous avancez pour le Seigneur, vous pouvez être certain qu'il va y avoir de la résistance. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ils étaient donc retournés à Jérusalem. Et là, on va lire le début du chapitre 4, si vous voulez suivre avec moi dans la Bible, dans votre version de la Bible. Je lis dans la Bible à la Colombe. Les adversaires de Juda et de Benjamin, c'était les deux tribus qui avaient été déportées à Babylone, apprirent que les anciens déportés bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils s'approchèrent de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent « Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Ésar-Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent « Ce n'est pas à vous. » Et à nous de bâtir une maison pour notre Dieu, nous bâtirons tout seuls, nous seuls, pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi de Cyrus, roi de Perse. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir, et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Les adversaires de Juda et de Benjamin, les adversaires, l'adversité, ce qui s'oppose à vous, ce qui s'oppose à votre progrès. Nous avons un adversaire. Son nom veut dire adversaire, le nom de Satan. Satan, le diable, c'est celui qui calomnie. Diable, ça vient de diabolos, ça veut dire lancer à côté d'eux, c'est lancer des accusations à côté de la vérité. Et Pierre nous dit, faites attention, soyez sobres. Ça veut dire d'être bien dans son esprit, de bien comprendre les choses, de ne pas être dans l'illusion, de ne pas être dans l'alcool non plus, de ne pas être dans des mensonges. Soyez sobres, parce qu'il nous dit « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on aime entendre. La vie est déjà assez compliquée comme ça. Si en plus il y a un gros lion qui nous menace, qui nous cherche, vraiment, on n'avait pas besoin. Merci pour la bonne nouvelle, Pierre. C'est 1 Pierre 5,8. Vous me dites, merci Pierre aussi de nous me rappeler que non seulement j'ai plein de problèmes, mais il y a quelqu'un qui veut me bouffer. Il y a quelqu'un qui veut me dévorer, qui rôde comme un lion. Il est à la recherche de la moindre opportunité. Les lions sont des animaux intéressants. Un lion, en fait, il passe son temps à dormir. Mais il a toujours l'esprit en éveil. Et il va chercher à satisfaire ses besoins. Il a besoin de 35 kilos de viande par jour. Il se moque de la traçabilité. Il ne cherche pas les étiquettes. Tout ce qui bouge, particulièrement les gazelles, les gnous, on dit, tout ce qui va vite, qui est un peu dodu, ça l'intéresse. Il a besoin de 35 kilos de viande par jour. Alors pendant 3 heures par jour, il va être très actif. Un lion peut courir jusqu'à 80 km/h à l'heure. Et quand il vous chope à cette vitesse-là, un coup de patte, c'est souvent les femelles qui chassent pour le lion, mais peu importe, le lion c'est un adversaire redoutable. Et nous devons être conscients du danger spirituel qui nous guette. C'est intéressant de remarquer que c'est pas lorsqu'ils étaient en train de construire leur demeure, on a vu que dans le prophète Agé, A2GE, accent aigu E, pas le vieux prophète. C'est un petit prophète par la taille de ses écrits. C'est le troisième livre à la fin des petits prophètes, en partant de la fin. Et il reprend le peuple juif parce que, au lieu de continuer la construction du temple, ils s'étaient endormis et ils construisaient leur propre maison. Ils se bâtissaient des belles demeures au lieu de penser à la demeure du Seigneur. Et c'est pas lorsqu'ils faisaient ça que l'ennemi est venu l'attaquer. Les adversaires de Juda et de Benjamin sont venus ennuyer ces deux tribus, ce peuple juif qui revenait de l'exil lorsqu'il faisait quelque chose pour avancer le royaume de Dieu. Et c'est souvent le cas. Lorsque nous ne faisons rien pour le Seigneur, la vie est facile, avec son lot de difficultés, de paperasseries administratives, de difficultés économiques, etc. Mais c'est souvent lorsqu'on cherche à avancer avec le Seigneur, qu'on veut progresser, qu'on prend des résolutions par la chair ou en priant l'esprit, que les ennuis commencent. On se décide de se lever plus tôt le matin, et là, pour prier, pour lire la parole. Et là, c'est là que le travail va nous demander d'arriver un peu plus tôt parce qu'il y a un surcroît de travail au bureau. Ou alors, on va tomber malade. Et du coup, on va pas avoir envie de se lever tôt. Au contraire, tout ce qu'on voudra, c'est des médicaments pour dormir et se reposer un peu. Toutes sortes de choses nouvelles, d'obstacles vont apparaître. Quand vous voulez vous engager dans l'Église, là aussi, vous allez avoir des difficultés, vous allez avoir des circonstances inattendues qui vont faire que vos désirs vont être opposés. Et souvent, l'opposition, le fait qu'il y a des disputes, le fait qu'il y a des problèmes inattendus, c'est lié au fait que vous voulez avancer avec Dieu. S'il n'y a pas de progrès, s'il n'y a pas de désir de progresser, bien souvent, il n'y a pas de résistance. Pourquoi est-ce que le diable et ses sbires, ses envoyés, les démons qui sont réels, qui sont des anges qui sont tombés avec lui, qui l'ont suivi, pourquoi est-ce qu'ils perdraient du temps avec quelqu'un qui ne cherche pas à avancer avec Dieu? Et donc, lorsque vous avez de l'opposition, vous faites des projets pour faire avancer le royaume de Dieu, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre quartier, peut-être vous voulez commencer un groupe de maison, peut-être vous voulez prier au travail avec des amis, des collègues, et puis il va y avoir de la résistance. Et la résistance, c'est quelque part un bon signe. Si vous pouvez voir la corrélation avec votre effort de vous rapprocher de Dieu. C'est intéressant parce que l'opposition, elle est souvent plus forte quand vous faites le plus pour Dieu. Et ça rejoint, pour ceux qui ont fait un peu de physique, ça rejoint la résistance à l'avancement, les frottements, c'est souvent proportionnel au carré de la vitesse avec laquelle vous avancez. Si vous mettez votre main à la portière, quand vous roulez à 30 à l'heure, vous ne sentez rien du tout. Si vous faites ça sur l'autoroute à 130, c'est comme si vous touchez un mur d'air à déplacer. C'est proportionnel au carré de la vitesse. Et souvent, l'opposition dans le royaume de Dieu, elle est proportionnelle au carré de vos efforts pour faire avancer les choses. On a en ce moment de l'opposition. On a Ali est séparé de sa femme qui est en Iran en attente qu'on lui rende son passeport qu'on lui a confisqué. Ils sont devenus chrétiens, ils veulent avancer, il y a de la résistance. Il y a le pasteur Saïd qui a fait une grande œuvre auprès des églises souterraines, comme on dit, les églises de maison en Iran, qui se retrouve maintenant dans la pire des prisons d'Iran, la prison Evin à Téhéran, où normalement on ressort pratiquement pas vivant. Il est battu pour sa foi. Il a des hémorragies internes, on le laisse pas voir de médecin. Plus il y a de désir d'avancer et plus il va y avoir de la résistance. Paul nous disait dans Éphésiens 6:10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Nous ne sommes pas laissés seuls devant cette opposition. Nous devons nous tourner vers Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Et ce matin, on va voir quelques-unes des manœuvres du diable. Et encore une fois, il est bon de réaliser que c'est pas à des hommes qu'on s'oppose, même si on parlait de la haine qu'on peut avoir pour les tortionnaires de Saïd qui est des chrétiens persécutés, qui les frappent, qui les mettent en prison, qui tuent, qui violent. Et quelque part, la personne me disait, j'ai la haine contre ces personnes. Et Dieu nous dit, rappelez-vous, c'est pas contre eux que vous luttez, c'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances démoniaques, il est dit dans Éphésiens 6:12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Il y a un combat spirituel. Non seulement il y a notre adversaire, le Satan, avec ses esprits qui veulent du mal, et puis il y a notre vieille nature qui se laisse tenter par le monde. Et donc nous avons de la résistance, nous avons de l'opposition. Mais Paul dit dans 2 Corinthiens 2:11, nous n'ignorons pas les desseins du diable ou les manœuvres du diable. Et on peut voir comment, on va avoir trois principaux moyens que Satan utilise pour nous interrompre dans nos progrès. Il peut utiliser l'infiltration, l'intimidation ou l'interdiction. C'est ce qu'on va voir. Dans le premier passage, les Juifs les habitants de la région de Jérusalem viennent les voir et leur disent « on va vous aider ». Mais en fait, il est important de se rappeler que les peuplades qui étaient là, c'était pas des personnes qui suivaient le Dieu d'Israël. Dans 2 Rois 17, au verset 32, il est question des idoles que les nations qui avaient été prises à la première déportation, il y avait le royaume du Nord avec capitale Samarie, qu'on appelait Israël, avait été déporté en 722 en Assyrie. Et les gens là-bas, il est dit qu'ils craignaient aussi l'Éternel, verset 32, ils craignaient aussi l'Éternel, donc ils respectaient le Dieu d'Israël. Et ils instituèrent pour eux des sacrificateurs, des hauts lieux pris un peu partout. Mais verset 33, ils craignaient l'Éternel, mais rendaient en même temps un culte à leur propre Dieu, d'après la coutume des nations d'où on les avait déportés. Lorsque les Assyriens emmenaient captifs un peuple, donc le royaume du Nord, les tribus, les 10 autres tribus d'Israël, qu'on appelait aussi Éphraïm, parce que c'était la tribu la plus importante. Lorsqu'il les déportait, il remplaçait, il faisait venir d'autres populations pour s'assurer qu'il n'y aurait plus jamais l'ennemi. Et même si l'ennemi pouvait revenir, il serait contrôlé par ces peuplades. Et ce peuple, il avait remarqué qu'en fait, il y avait encore des lions à l'époque. Il y avait des animaux sauvages dans la région d'Israël au nord, et ils ne pouvaient pas, ils se faisaient attaquer par ces animaux, et ils pensaient qu'en fait c'était parce qu'ils n'arrivaient pas à apaiser les dieux locaux. Donc ils avaient demandé au roi d'Assyrie d'envoyer des prêtres et des gens pour prier pour eux et pour les protéger en fait de ces bêtes sauvages. Donc ils avaient fait revenir des prêtres, mais ce qui est intéressant, c'est que ces prêtres, ils avaient été exilés déjà parce qu'ils étaient dans l'idolâtrie. Donc l'idolâtrie fleurissait, on adorait plein de dieux, et puis on se disait autant adorer aussi le Dieu d'Israël de la région. Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi, un autre terme, c'est le syncrétisme. C'est-à-dire qu'on mélange un peu tout, et ça, c'est la religion d'aujourd'hui. En France, de l'étranger, certains pensent qu'on est un pays chrétien, parce qu'on a une vieille tradition catholique. Et même parmi les gens qui disent croire en Dieu en France, ils ne voient aucun problème à lire l'horoscope, à consulter les astrologues. Tout le monde le fait, ça ne peut pas faire de mal. On prend et on choisit, on se fait sa petite religion, si on s'en fait une. Si on ne s'en fait pas, c'est qu'on s'idolâtrise soi-même. On est notre propre Dieu. Même parmi les chrétiens, aux États-Unis, c'est intéressant, 93% des gens se disent chrétiens, 90%, pardon, mais 93% d'entre eux pensent que le facteur le plus important pour décider des choses de leur vie, c'est eux-mêmes. Donc on veut bien croire qu'il existe quelque part un Dieu, mais surtout qu'il ne vienne pas se mêler de mes affaires, qu'il ne vienne pas me dire comment vivre. Et parmi ces chrétiens en nom, là aussi 90% pensent que la moralité biblique est dépassée, qu'elle est arriérée, qu'elle ne s'applique plus à la vie aujourd'hui. Et donc ces adversaires de Judas et de Benjamin, en fait ils nous ressemblent. Et même parmi nous, moi j'en suis victime des fois, c'est de penser qu'on est chrétien, mais on choisit les choses dans notre vie parce que ça nous plaît, parce que ça nous convient. Et puis à la fin on dit, oups, je vais demander à Dieu de bénir mes projets. Mais on n'est pas venu à lui, on n'a pas cherché à faire sa volonté avant toute chose. Ce que Jésus nous disait, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes les autres choses dont nous avons besoin nous seront données en plus. Le travail, la nourriture, la santé, le logement, les amis, toutes ces choses dont Dieu sait que nous avons besoin parce qu'il nous a créés avec ses besoins. Mais il nous dit, faites-moi confiance, venez à moi d'abord. Est-ce que je vais à lui d'abord? Est-ce que je recherche d'abord son royaume? Est-ce que le matin, quand je me lève, je dis, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, aujourd'hui pour faire avancer ton royaume? Est-ce que je peux parler à telle personne, encourager telle autre personne, envoyer un courrier, donner de l'argent à telle ou telle cause, à l'église? Est-ce que je peux assister à une réunion à l'église pour encourager les autres par ma présence? Est-ce que je peux venir à une réunion de prière? Est-ce que je peux me proposer pour servir le dimanche dans différents... Ou est-ce que je me dis, c'est bien de venir à l'église, ça me donne la paix. Quand je sors de là, je suis déprimé quand je rentre et en principe, quand je ressors, je me sens mieux. C'est ça, j'espère que c'est le cas et c'est un bénéfice que Dieu nous donne. Mais est-ce que je viens à l'église, est-ce que je cherche à rencontrer Dieu dans sa parole, dans la communion fraternelle, dans la louange? Ou est-ce que je cherche mon intérêt? Alors on a dit donc, il y a d'abord l'infiltration. L'ennemi essaye de nous aider, entre guillemets. Tout ce qu'il veut, c'est d'être dans l'équipe pour faire dérailler les choses. C'est un peu comme si les mormons venaient nous dire, ben on est chrétiens nous aussi, et on va faire une campagne d'évangélisation à Nice, c'est d'accord? Ou alors on dit, on se laisse aider par le monde. On dit, c'est bien, on va faire grandir l'Église. Ça fait 2 ans que Google m'envoie des invitations à faire de la publicité payante pour l'Église, pour que j'arrive en tête dans les recherches d'Église. Eh ben, je vais mettre la main au porte-monnaie. Je vais demander au monde, à Google, d'aider le royaume de Dieu. C'est subtil parce que il y a une ligne délicate, mais posons-nous la question, est-ce qu'on fait le travail de Dieu avec les ressources de Dieu? Ou est-ce qu'on essaye de mettre des ressources du monde dans cette œuvre? Les ressources de Dieu, c'est la prière, c'est la mobilisation dans le jeûne, dans la communion fraternelle, dans l'étude de la parole. Dieu peut faire de grandes choses sans les moyens matériels que nous pensons indispensables. Nous devons aussi nous en servir. Je suis sûr que l'apôtre Paul aurait eu un MacBook. Il aurait voyagé en jumbo jet ou en A380 pour aller de partout. Il aurait utilisé le téléphone pour être en contact avec tout le monde. Mais est-ce que l'on prend les moyens pour des buts ou est-ce que l'on fait l'inverse, c'est-à-dire les utiliser des moyens vers le but de faire avancer le royaume de Dieu? C'est la question. Donc ils essayaient d'infiltrer et ils leur disent « Oui, nous invoquons votre Dieu ». En fait, il était, oui, certes, ils invoquaient le Dieu d'Israël, mais il était un Dieu parmi beaucoup d'autres. Nous lui offrons des sacrifices depuis que le roi d'Assyrie, un descendant de Sennachérib, qui les avait exilés en 722 avant Jésus-Christ, depuis que ce roi nous a fait monter ici, qu'il nous a envoyé peupler le royaume du Nord, le territoire du royaume du Nord. En fait, ils ne pouvaient pas faire de vrais sacrifices parce qu'il n'y avait pas de temple. Donc leur foi, elle était très bancale. Et on peut admirer Zorobabel, le gouverneur, Josué, le grand prêtre, et les autres chefs des familles d'Israël qui étaient revenus de l'exil, qui leur disent « Non, merci ». C'était pas très politiquement correct. On aurait pu penser « C'est bien d'avoir des bonnes relations avec nos voisins, on va les admettre, on va tous travailler ensemble, on va être une grande famille ». Alléluia. C'est ce que fait l'Église avec l'œcuménisme. On adore tous le même Dieu. Que ce soit Allah, Bouddha, Jésus, Hare Krishna, on adore tous le même Dieu en fait. On va tous prier ensemble. Ça marche pas, parce que c'est pas le même Dieu. Le Dieu de l'islam n'est pas le Dieu d'amour de la foi chrétienne, de la Bible. Bouddha, c'est pas un dieu, c'est un illuminé. C'est lui qui, ce que veut dire son nom. Et donc, ils sont courageux, ils disent non merci, on va faire nous-mêmes bâtir pour l'Éternel le Dieu d'Israël, pas le Dieu de ces peuplades. Ça, c'était l'origine, ces peuplades, ce mélange de peuplades qui venaient d'Assyrie avec les peuples des anciennes tribus d'Israël, c'est ce qui a donné naissance aux Samaritains. Ils habitaient la Samarie, et on sait que Jésus parle de cela. On voit qu'il y avait une haine farouche, et ça a démarré à ce moment-là, lorsque les Juifs n'ont pas voulu coopérer avec cette peuplade, ces peuplades qui, en fait, n'étaient pas restées fidèles au Seigneur, Dieu d'Israël. Je vous renvoie au chapitre 4 de Jean qu'on a étudié le vendredi soir. Les disciples étaient surpris que Jésus passe en Samarie, parce que d'habitude on faisait un détour, on ne voulait pas se souiller en rencontrant ces peuplades impures. Et la femme, la Samaritaine justement, posait la question, elle essayait de détourner la question lorsque Jésus lui disait que elle avait eu 5 maris et que celui avec lequel elle vivait n'était pas son mari. Elle lui disait, Jean 4, 20, « Nos pères ont adoré sur cette montagne, c'était le mont Gérizim, et vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » Et Jésus lui répond, en fait, ce qui compte, c'est pas le « où », c'est le « qui ». C'est pas « où on adore Dieu », c'est « quel Dieu », « qui est le Dieu qu'on adore ». Et il disait, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Et donc ces Samaritains, Zorobabel leur dit, non merci, on va faire notre travail tout seul. Et il rappelle que c'est le roi de Perse, le roi Cyrus, qui leur a ordonné de rentrer et de rebâtir le temple. Donc c'est l'infiltration. Essayer d'infiltrer le travail, il faut le discernement. Des fois, des gens peuvent soi-disant vous aider à vous approcher de Dieu, mais en fait, ils ont d'autres intentions ou leur vie est telle qu'en fait, ils vont vous détourner du vrai Dieu. C'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un dans l'Église que c'est nécessairement un chrétien engagé qui veut avancer le royaume de Dieu. Vous devez exercer votre discernement spirituel, demander conseil. Ils vont maintenant, parce que l'infiltration, l'ennemi, il essaye d'infiltrer, de nous rejoindre, de polluer notre foi. On n'a pas tous le même Dieu. Toutes les autres religions, encore une fois, c'est les efforts de l'homme pour aller vers Dieu. La foi chrétienne, elle est unique parce que c'est la foi dans laquelle Dieu vient toucher l'homme. Et le fini qui cherche à aller vers l'infini, c'est voué à l'échec. C'est les religions. L'infini qui vient vers le fini, puisqu'il est infini, il n'a aucun problème à le faire. Et ça, c'est la foi chrétienne. C'est Jésus-Christ, l'infini, le Dieu, le Fils de Dieu qui est venu toucher l'homme, qui s'est incarné. L'intimidation, verset 4, « Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. » Décourager, l'expression mot à mot serait traduite par « affaiblir les mains ». Et c'est vrai que quand on est découragé, on n'a plus envie de rien faire. On a du mal à se lever le matin, on a du mal à commencer le travail, on a du mal à se motiver. Ils ont même embauché, verset 5, des conseillers, des professionnels pour faire échouer l'entreprise. Il y a des décourageurs professionnels. Il y en a peut-être autour de vous. Encore une fois, ayez du discernement. Vous venez avec un projet, on vous dit « Oh, ça on a essayé, ça n'a jamais marché. » Ah bon ? Je me souviens la première fois que j'étais arrivé à Nice et que j'avais pris un engagement de remplacer un pasteur pendant 9 mois dans une église libre. Première réunion avec le conseil, j'avais dit, voilà, qu'est-ce qu'on va faire pour l'évangélisation? Et 2 ou 3 personnes m'avaient dit, oh, l'évangélisation, on a essayé, mais ça marche pas. Ah bon? Problème. Et faites attention parce que le découragement, c'est contagieux. On l'attrape par contagion. Quelqu'un nous dit quelque chose de décourageant et à notre tour, on va décourager les autres. Et une église découragée, c'est pas une église qui prend du terrain. C'est une église qui vivote. C'est une église qui a des difficultés à survivre. Puis finalement, elle s'éteint. L'intimidation. Et là, le passage qui suit, on ne va pas le lire en détail, les versets 6 à 24, à 23 plus exactement, ils vont nous montrer comment les adversaires vont essayer de faire interdire le travail de reconstruction du temple. Mais en fait, si vous regardez, il est question, verset 6, du règne d'Assuérus. C'est le roi dont il est question dans le livre d'Esther. Il est aussi question du roi Ataxerxès, dont on parle par ailleurs. Et en fait, on réalise tout de suite que c'est pas seulement pendant la période de construction du temple. C'est un peu une digression que l'auteur, on pense que c'est Ezra, le scribe, qui a écrit ce livre, et Néhémie, qui est encore le retour du peuple juif pour reconstruire la ville et les murailles. Il saute un peu dans le futur, il ne suit pas l'ordre chronologique là. Il va parler de difficultés que vont rencontrer même Néhémie, dont on parlera plus tard chronologiquement. Mais il nous montre comment les adversaires ont continué à s'opposer à ce retour, à cette reconstruction de la ville de Jérusalem, de la muraille, du temple et de l'autel. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pour nous dire qu'en fait, la période qui est décrite, là, ces rois qui ont régné, ça fait une période de 70 ans. C'est intéressant, c'est encore le nombre 70. Mais ça veut dire que l'opposition, attendez-vous à ce qu'elle soit longue et constante, ou au moins constante dans le temps, avec probablement des variations d'intensité. Mais réalisez bien que rien de ce qui se fait dans le royaume de Dieu qui compte ne se fait facilement. On lit des biographies où on a entendu parler de tel ou tel grand missionnaire. On pense par exemple à Hudson Taylor qui avait été missionnaire en Chine et qui a fait une grande œuvre missionnaire, qui a semé les bases de la foi chrétienne en Chine, qui a été éteinte par le communisme, mais qui maintenant, après avoir été souterraine, a ressurgi, et il y a près de 100 millions de chrétiens engagés en Chine. Cet homme, Hudson Taylor, si vous lisez sa vie, et c'est bien de lire les biographies de missionnaires ou d'hommes chrétiens qui ont œuvré pour Dieu, vous allez vous apercevoir que c'était une suite de difficultés, d'échecs, de découragements, de persévérance. Et ces dates, ces règnes de rois, c'est pour nous montrer qu'on doit persévérer. Rien de ce qui se fait qui qui est, encore une fois, qui porte du fruit, qui est valable, qui dure, qui glorifie Dieu, rien n'est fait du jour au lendemain. Un champignon peut pousser du jour au lendemain. En automne, vous allez dans les champs, dans les sous-bois, et d'une semaine à l'autre, d'un seul coup, il y a un énorme champignon. Mais les chênes, ça prend des décades, voire des siècles pour pousser. Et si vous ne persévérez pas dans votre résolution de travailler sur votre relation avec Dieu, si vous vous découragez parce que ça n'a pas marché, vous reprenez la Bible au 1er janvier, puis en fait vous apercevez que vous aviez lu la Bible jusqu'au mois de février. Et puis après, vous étiez en retard, vous vouliez connaître la suite du passage que vous aviez lu, mais comme ça faisait trois jours, vous étiez tiraillé entre lire la lecture du jour ou finir la lecture que vous aviez commencée. Et puis finalement, vous regardez la télé. Le découragement, il faut vraiment lutter, il faut vraiment ne pas vous laisser intimider, il ne faut pas vous laisser décourager, il faut persévérer. Et là, les ennemis vont écrire plus exactement au roi de ces périodes-là pour faire interdire l'œuvre. Alors ils utilisent de l'information, mais c'est de la désinformation. Dans la première, il y a deux lettres dont il est question. La lettre au chapitre 7, la lettre fut écrite en caractère araméen et traduite en araméen. C'est intéressant de savoir que le passage qui commence là, jusqu'au chapitre 6, c'est pas en hébreu, c'est en araméen. C'était la langue que l'on parlait à l'époque de Jésus-Christ, c'était la langue qui avait été formée là. Sans doute parlé en perse et traduit en araméen. Et il y a une première lettre qui avait été envoyée et dans laquelle il faisait penser au roi Artaxerces que les Juifs s'opposaient, venaient à Jérusalem pour devenir une puissance qui allait les concurrencer. Et puis au verset 11, il y a la copie de la lettre qu'ils envoyèrent au roi Artaxerces. Oui, c'est celle-là. Le roi, verset 12, ils leur disent en fait que le roi sache que le peuple qui est rentré à Jérusalem, ils rebaptisent la ville rebelle. Verset 13, que s'ils rebaptissent cette ville rebelle, ils vont plus payer leurs impôts. Alors, si vous voulez faire bouger un gouvernement, vous refusez de payer les impôts. Vous vous exilez en Russie. Il y avait le roi Assuérus, on va faire un petit jeu de mots pour Tonio, et il y a Gérard Depardieu qui dit « Moi aussi, je suis russe. Je suis russe. » Pour les impôts, ils font peur et ils disent qu'en fait, verset 14, ils se présentent comme des bons serviteurs. Nous mangeons le sel du palais, il ne paraît pas convenable de voir mépriser le roi. En fait, ça veut dire que comme nous sommes soutenus par la grâce du roi, on pense qu'on doit vous mettre au courant. On vous envoie ces informations. Et en fait, l'information, elle est partiellement vraie. Une des informations, c'est que dans le passé, la ville de Jérusalem a été une ville rebelle. C'est vrai que Jérusalem a résisté et a été un grand royaume, mais ce n'est pas le cas du peuple qui est rentré. Eux, ils veulent simplement reconstruire le temple pour pouvoir avoir une relation avec Dieu. pouvoir offrir des sacrifices, pouvoir célébrer l'expiation de leurs fautes. Il y a l'information et la désinformation. Et encore une fois, le parallèle avec notre ennemi, l'adversaire, Satan, il est frappant. Parce que nous sommes pécheurs. Ne vous attendez pas, priez, mais ne vous attendez jamais, ou alors vous n'avez rien compris à la parole de Dieu, à un jour ne plus vivre sans jamais pécher. Wow. Je ne vous encourage pas à pécher, mais je dis, ce n'est pas moi, c'est Jean dans 1 Jean qui nous dit que celui qui dit qu'il ne pêche plus fait de Dieu un menteur. Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix parce qu'il savait que nous avons besoin de son pardon. Et nous avons besoin d'être lavés. Ce n'est pas une excuse, ce n'est pas parce qu'on sait qu'on ne va pas y arriver. Le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Donc nous sommes pécheurs. Nous restons, notre vieille nature nous fait de nous des pécheurs. Et nous trébuchons, nous tombons dans le péché. Nous devons demander à Dieu de nous aider, de nous relever, de ne pas retomber dans le péché. Dieu veut nous aider. Mais lorsque nous nous trouvons dans le péché, nous entendons la voix de Satan, l'adversaire qui nous donne de l'information. Vrai ? Tu as péché. Oh, oh, oh. Suivi de la désinformation. Maintenant, c'est fini avec Dieu. Il ne peut plus te pardonner. Tu as poussé le bouchon trop loin. Faudrait quand même pas exagérer, Pierre. Tu penses pas que Dieu peut te pardonner? Ça fait 50 fois que tu lui demandes pardon pour la même chose et tu viens de le faire encore. Ça, c'est la désinformation. Parce qu'encore une fois, le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité et Dieu nous pardonne si nous venons à lui dans la repentance. L'information, c'est « nous sommes pécheurs », la désinformation, c'est que Dieu ne veut plus de toi. Dieu est mort pour moi. Il est mort pour chacun de nous. Et il attend qu'une chose, comme le père du fils prodigue, c'est que nous revenions à lui, que nous rebâtissions l'autel, que nous lui demandions pardon. Et Dieu peut nous libérer de nos péchés habituels. Notre chair en trouvera d'autres, mais si aujourd'hui vous avez quelque chose qui vous ennuie parce que c'est un péché habituel, vous pouvez par la foi remettre ce péché à Dieu et Dieu peut vous en guérir. Guérison, c'est de le faire moins souvent, peut-être de le faire plus jamais, mais il y aura un autre péché. Il y aura peut-être le péché d'orgueil d'avoir vaincu votre péché habituel. La chair, notre vieille nature est insidieuse, elle est toujours prête à nous faire un croche-pied, à nous faire trébucher. Mais là, Satan, c'est la différence entre la condamnation et la conviction. Paul est très clair, il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est dans Jésus. Romains 8, 1. Il n'y a plus aucune condamnation. Pas une petite qui reste dans le tas. Aucune condamnation. Si vous vous sentez condamné, que vous êtes tellement pris par la honte de votre péché que vous ne voulez pas revenir à Dieu, c'est de la condamnation. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi, ça vient de Satan. Par contre, l'Esprit Saint, son esprit, nous convainc de péché. C'est la conviction d'Esprit Saint qui nous dit « Pierre, qu'est-ce que tu viens de faire ?» Qui me dit « Pierre, qu'est-ce que tu viens de faire ? Demande pardon à Dieu et arrête ça. » La conviction de l'Esprit Saint, elle nous ramène à Dieu. Si vous n'osez plus retourner à Dieu, si vous n'avez plus envie d'aller le voir, vous pensez qu'il ne va pas vous recevoir à son trône de grâce, C'est Satan qui vous ment. Il est le menteur, il est l'inventeur, le père du mensonge. Il vient pour détruire. Il est comme un voleur, nous disait Jean dans Jean 10. Alors que Jésus est venu pour que nous ayons la vie abondante. L'ennemi vient, lui, pour comme un voleur, pour mentir, pour détruire, pour tuer. N'écoutez pas l'ennemi, écoutez Jésus, écoutez la parole de Dieu. Et encore une fois, sachez que cette opposition, elle s'en va pas du jour au lendemain. Soyez prêts à vous battre pour la durée. La vie chrétienne, c'est pas un sprint. On a des fois des nouveaux convertis qui sont tout feu, tout flamme, ils reçoivent des dons, et puis on les voit quelques années plus tard, et puis ils suivent même plus le Seigneur. La vie chrétienne, c'est une vie d'endurance, c'est un marathon. Il ne s'agit pas de courir pour courir, il s'agit de courir pour gagner. Ça fait du bien des fois de courir très vite sur 100 mètres, mais quand il faut faire un marathon, 42 km, ou un demi-marathon, ou un 10 km, ça demande de l'endurance. Mais encore une fois, Dieu est là pour nous aider. L'œuvre de Dieu a été ralentie, la construction du temple a été interrompue, le verset 24, l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem fut interrompu, mais il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Si vous persévérez, la victoire est au bout de vos efforts. Et Dieu est là à tout moment pour vous encourager, pour vous redonner de la force, pour vous pardonner, pour vous aider à vaincre les péchés habituels, les problèmes. Refusez l'infiltration de l'ennemi. Des amis qui ne vous veulent pas du bien ou qui aimeraient bien que vous arrêtiez d'être aussi religieux. Tu vas à l'église, tu peux pas venir avec nous, on va faire un marathon justement. Alors ça, on peut manquer le culte de temps en temps, mais je veux dire, les amitiés, faites attention à l'infiltration, faites attention à l'intimidation de l'ennemi. Et puis, ne laissez personne vous interdire de suivre le Seigneur. Persévérez et vous pourrez rebâtir l'endroit où vous rencontrez Dieu. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui nous instruit encore pour aujourd'hui, qui nous montre les dangers, les oppositions que nous vivons aujourd'hui. Seigneur, nous avons un ennemi, mais Jean nous l'a tellement bien dit, 1 Jean 4:4, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est au dehors, Seigneur. Nous savons que toi, Jésus, tu as vaincu l'ennemi à la croix. Il fait un combat d'arrière-garde, il essaye de nous décourager, de nous mentir, de nous condamner. Mais toi, Seigneur, tu es présent et tu es le plus fort. Et tu veux notre bien. Tu es venu pour nous donner la vie en abondance. Sois béni, Seigneur. Aide-nous à faire la différence. Aide-nous à reconnaître le combat spirituel dans nos vies journalières, Seigneur. Quand nous disputons avec notre épouse, avec notre époux, quand nous sommes découragés, lorsque nous disons du mal des uns des autres, Seigneur, apprends-nous à avoir le discernement de reconnaître que c'est l'ennemi qui infiltre notre vie, qui veut nous intimider, qui veut nous interdire la relation avec toi. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, pour ta victoire à la croix. Nous prions ces choses dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.